La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque. Un regard sur l'actualité agricole.
Mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition de La quotidienne. Mon nom est Michel Cloutier. Aujourd'hui, je suis en compagnie des gens de l'Institut Jean Garon, entre autres Simon Bégin et Guy de Bailleul. Bonjour,
bonjour,
messieurs.
Bonjour, Michel.
Bonjour, un petit peu
bonjour, plus... Michel.
Et un petit peu plus tard, dans le deuxième segment de l'émission, on le saluera tout à l'heure, mais il y a Michel Saint-Pierre qui va se joindre à nous, également de l'Institut Jean Garon, pour le deuxième segment. Dans un premier temps, Simon et Guy, je vous laisse nous présenter. Vous avez un invité qui a fait un travail, on me dit, remarquable. Là.
Effectivement, Michel. Alors oui, on est très heureux de recevoir, d'avoir avec nous aujourd'hui Mme Geneviève Parent. Mme Parent est titulaire de la chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire de l'Université Laval. Bonjour, Mme Garand, merci de vous joindre à nous. Écoutez, pour le bénéfice de nos auditeurs, je pense, Mme Parent, que je vais prendre le temps de rappeler un peu le contexte qui nous fait s'adresser à vous. Il y a actuellement au Québec une vaste consultation nationale sur une refonte d'une loi fondamentale, la loi de protection du territoire et des activités agricoles, qui a 45 ans cette année. Écoutez, je pense que c'est un exercice qui est très nécessaire. Nous, à l'Institut, on est embarqué, on y participe activement. Et la façon dont ça se déroule, le ministère de l'Agriculture va publier 3 fascicules. Il y en a déjà eu un premier dont on va parler plus en détail. Il y en a un deuxième qui vient de sortir. Le premier était sur c'est quoi le territoire, la description des choses. Le deuxième nous parle de la façon dont le territoire est utilisé. Et le troisième, à venir plus tard, va nous dire à qui il appartient. Alors, écoutez, moi, pour avoir parcouru un peu les documents, je dois dire, Mme Parent, que le travail effectué par la chaire de recherche qui a regardé un peu ce qui se passe dans l'ensemble du monde, la planète, qu'est-ce que les différentes juridictions ont pu faire pour protéger le territoire agricole et la façon dont il y a des mesures structurantes, bien, je dois dire que votre document, bien, d'après moi, il se démarque là, par sa qualité et sa profondeur. Alors, vous avez aussi participé à un webinaire et dans lequel vous avez, d'entrée de jeu, dit qu'il faut être fier de cette loi-là. Elle a vieilli, on peut la critiquer, mais globalement, il faut être fier. Pourquoi doit-on être fier de la loi de protection du territoire agricole?
Écoutez, d'abord, permettez-moi de vous remercier. C'est quand même pas si souvent qu'on a des compliments comme vous le faites là, quand on travaille dans nos tours d'ivoire, parfois là, à l'université. Donc, je vous remercie. C'est un travail quand même qu'on a fait avec beaucoup de plaisir aussi, parce que ça nous a permis, comme vous le dites, là, de réaliser, on le savait, mais de réaliser vraiment très, très objectivement à quel point la loi sur la protection du territoire des activités agricoles, c'est vraiment un joyau à protéger et on doit en être très, très fiers. Comme vous le dites, là, c'est un mandat que le ministère de l'Agriculture nous a demandé de faire, c'est-à-dire d'un peu réfléchir sur l'historique et surtout le mandat portait sur la collecte là, d'exemples réglementaires innovants à travers le monde desquels on pourrait s'inspirer. Tout en les conservant évidemment en phase avec notre réalité québécoise. Donc cette loi-là, elle est très très importante. D'abord, elle est reconnue à travers, comme vous l'avez dit, à travers le Canada et à travers le monde comme étant la base, en fait, le socle d'un des régimes les plus protecteurs en matière de territoire agricole et d'activité agricole. Il y a plusieurs études qui ont été menées, notamment l'Université d'études pancanadiennes que l'on cite dans le rapport là, du collègue David Connell de l'Université de la Colombie-Britannique et qui a vraiment analysé là, l'effectivité des différents régimes là, de protection du territoire agricole et vraiment c'est celui du Québec qui se démarque à tout point de vue. Mais c'est la même chose à travers le monde. Là. C'est une loi qui a peu ou pas son pareil ailleurs. Là, dans le rapport, on identifie certaines réglementations, certains parfois seulement des parties de loi là, qui peuvent nous inspirer, mais rarement on trouve un instrument juridique aussi complet que celui qui nous est proposé par la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Oui, je pense qu'entre autres, vous soulignez que la loi met une limite, encadre le sacro-saint droit de propriété. Et je pense qu'il y a plusieurs juridictions qui sont très frileuses lorsqu'il s'agit de toucher au droit de propriété, à le limiter d'une certaine façon.
Exactement. Donc, cette loi-là, ce qu'elle fait, c'est en fait, par cette loi-là, le Québec décide hein, qu'il accorde une protection ou un statut particulier au territoire et aux activités agricoles. Et évidemment, quand on fait ça, à travers une loi là, dans le jargon juridique qu'on va décrire comme étant une loi d'ordre public, hein, qui est prohibitive, donc qui limite certains actes que l'on peut normalement poser, ça crée toujours des insatisfaits ou des problématiques ou en tout cas des frictions. Puis cette loi, ni plus ni moins, ce qu'elle fait, c'est qu'elle limite ou elle module le droit de propriété des gens qui détiennent des terres ou des lots, en tout cas, en zone agricole. Donc, ils ne peuvent plus, sans l'autorisation de la commission, effectuer ou poser certains gestes qui ne relèvent pas de l'agriculture. Donc, c'est simple quand c'est dit comme ça, mais le droit de propriété, c'est probablement un des plus sensibles quand une province, un État tente de limiter ou de moduler ce droit-là, ça s'oppose souvent à des... ça crée souvent des frictions très importantes parce que c'est un droit, comme je dis, très sensible. Aux États-Unis, c'était ancré dans la Constitution, le droit de propriété individuelle, dans différents pays aussi. Donc, c'est vraiment probablement l'un des droits les plus difficiles à moduler. Alors, c'est ce que cette loi-là fait. Par le biais de cette loi-là, le Québec a décidé d'accorder un statut particulier aux terres agricoles et de les protéger pour les générations actuelles, mais les générations futures également. Et ce faisant, ben ça limite le droit de propriété, ou ça le module plutôt, d'une certaine manière, à atteindre les objectifs que s'est fixé cette loi-là.
Oui, bonjour Geneviève, et ravi de pouvoir te réouvrir sur ce rapport qui est effectivement assez remarquable. Tu as mentionné David Connell qui a fait cette comparaison à l'échelle canadienne. Et effectivement, il montre qu'il y a deux provinces qui sont relativement assez proches pour le degré relativement avancé de la protection du territoire agricole. C'est le Québec, bien sûr, qui arrive en tête. Et puis, il y a la Colombie-Britannique. Un petit peu après, vient l'Ontario. Alors, ce qui est frappant, d'ailleurs, c'est que quand on voit que les autres provinces sont très loin derrière, on peut se dire, ben oui, c'est peut-être aussi dû au fait que en Alberta, Manitoba, Saskatchewan, la quantité de terres agricoles est telle qu'on ne ressent pas le besoin de les protéger. Alors, je pense que c'est un facteur explicatif. À partir du moment où on a simplement 2% de notre territoire en ayant une valeur agricole importante, ça paraît logique de le protéger. Mais tu soulignes effectivement que c'était une atteinte au droit de propriété. C'est peut-être ce qui explique qu'en Colombie-Britannique, on avait pris les devants à partir de 1972, mais on a zoné en quelque sorte que les zones qui étaient estimées sensibles ou exposées à l'urbanisation. On n'a pas zoné l'intégralité du territoire agricole. Alors, c'est peut-être effectivement le fait qu'on portait atteinte au droit de propriété. D'ailleurs, peut-être aussi ce qui explique qu'au Québec, en zonant intégralement, on a aussi fait en sorte que tous les agriculteurs bénéficient du remboursement de la taxe foncière. Il y a un lien entre... On a l'impression qu'il y a une certaine compensation qui est intervenue à ce niveau-là.
Exactement. Moi, je pense que l'hypothèse est très, très valable là, de dire qu'on a procédé autrement en Colombie-Britannique pour éviter de heurter peut-être cette sensibilité-là en lien avec le droit de propriété avant tout. Puis j'ajouterais à ça aussi peut-être une autre hypothèse d'explication qui est la suivante, c'est que quoi qu'il en soit, là au Québec, quoi qu'on en pense, on a quand même une tradition de bijuridisme. Hein, donc, une grande partie de notre droit est influencée par le droit français. Donc, une façon de concevoir le droit qui est bien différente. Puis on le voit en agroalimentaire à différents niveaux. On la sent et on la constate, cette différence-là, à plusieurs niveaux. Notamment, on n'a qu'à penser aux appellations d'origine. Au Québec, on a une loi sur les appellations d'origine et les termes valorisants, ce qui est complètement différent de la façon dont le reste du Canada aborde cette question-là d'identification des produits. Donc, on a aussi cette tradition juridique qui est un peu particulière au Québec, qui facilite, je pense, ou qui nous amène à réfléchir autrement le droit et qui a probablement facilité ou permis, là, consciemment ou inconsciemment, là, cette façon de procéder au Québec, là, de zoner plus large pour éventuellement rétrécir par la suite. Là. Et aussi, ce que tu apportes est très important, hein, je le disais tout à l'heure, mais c'est important de comprendre que cette loi-là, c'est le socle d'un régime juridique et politique qui protège les terres et les activités agricoles. Donc, la loi en tant que telle, mais il y a beaucoup d'autres mesures qui s'ajoutent à cette loi-là, puis une autre loi très importante aussi, qui est la loi sur l'acquisition des terres par des non-résidents,
oui.
Mais qui forme un vrai régime juridique et politique qui protège les lois. Donc, les mesures fiscales dont tu parles, je pense que ça faisait déjà partie à l'époque, lorsqu'on a le ministre Garon a présenté son projet de loi, il savait à cette époque-là, dès lors, qu'il devait ajouter des mesures et politiques et juridiques là, pour compléter ce régime-là qui est fondé là, sur la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Oh oui, Mme Simon-Bégin. Écoutez, dans votre réflexion, vous avez identifié trois socles de la loi qui devraient être absolument maintenus. On sait qu'il y a une réforme en cours, mais vous avez identifié trois principes de base que, quoi qu'on fasse pour l'améliorer, soit-on-le, ces droits principes-là doivent demeurer. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler?
Oui, très certainement. Bon, on nous parle, c'est drôle parce que vous avez utilisé le terme réforme de la loi. Je pense que le gouvernement est un peu plus prudent sur l'utilisation du terme, mais quand même, je pense qu'il faut, comme je disais d'entrée de jeu, là, être très prudent parce qu'on a entre les mains un instrument juridique qui est très, très fort. Et donc, on veut surtout pas l'affaiblir dans un contexte où, on y reviendra peut-être, mais il y a tellement de crises, que ce soit environnementales, de sécurité alimentaire, etc., là, qui nous amène à vouloir parfois faire le monde renforcé. Oui?
La pression est énorme sur le territoire agricole, c'est un fait. Oui.
Exactement. Plus que jamais. Donc, évidemment, on ne veut pas affaiblir ce régime-là. Et moi, c'est très, très important là, que en tout cas, c'est ma prémisse de base. Puis je pense que je l'ai mentionné dans le rapport et je vous le dis à nouveau, mais entre autres, il ne faut pas affaiblir ces trois socles-là, là, qui sont d'abord la reconnaissance d'une valeur collective au territoire agricole, hein, par le biais de la loi, au territoire et aux activités agricoles. Ça a été élargi au fil des années aux activités agricoles. Donc, par cette loi-là, on reconnaît, hein, la société québécoise reconnaît une valeur collective à la terre. Donc, on accorde une valeur collective au détriment des droits de propriété privée de chacun des détenteurs de l'eau en zone agricole. Mais c'est un choix de société que l'on fait. Puis ça, évidemment, c'est la base et le socle fondamental de cette loi-là. Ensuite, il faut s'assurer que la loi, dans sa révision ou en tout cas dans la réflexion qu'elle emmène en ce moment, elle continue d'avoir priorité sur d'autres législations. Hein. C'est ce que la loi, c'est ce qui se passe en ce moment. Hein. Elle prévaut la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles sur d'autres lois, notamment celle sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, et ça, c'est très, très important. Je pense que les terres agricoles sont toujours, et sinon encore plus, convoitées, soumise à la spéculation, etc. Donc, tous les éléments, là, dans le fond, qui ont mené le ministre Garon à proposer cette loi en 1978 sont encore présents, mais à mon avis, encore peut-être exacerbés aujourd'hui avec l'ajout de différentes crises, là, comme vous disiez, différentes autres pressions. Donc, il faut que cette mécanique juridique-là, là, qui fait en sorte que la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles prévaut sur d'autres lois, soit maintenue. Ça ne veut pas dire que cette loi ne peut pas être en cohérence avec d'autres mesures juridiques, notamment la protection de l'environnement. On a tous évidemment envie que cette loi puisse aussi contribuer à la protection de l'environnement. C'est l'instrument principal des agriculteurs, évidemment, le sol, la qualité du sol, etc. Donc, elle peut être en cohérence, mais le fait qu'elle prévaut sur d'autres doit être maintenu. Ça, c'est le deuxième élément. Puis finalement, que cette loi-là soit administrée, sa mise en œuvre soit administrée par une instance indépendante, en l'occurrence la Commission de protection du territoire des activités agricoles, c'est essentiel et c'est ce qui fait la force de ce régime juridique-là. Donc ça, il ne faut absolument pas assouplir ces piliers-là. Il faut les préserver coûte que coûte. On peut tout est perfectible, donc on peut réfléchir à améliorer cette protection-là, mais ça, c'est trois piliers qu'on doit absolument, qui sont fondamentaux et qu'on doit absolument préserver.
Ben écoutez, Madame Parent, c'était très intéressant. On pourrait continuer à en jaser longtemps. Il n'est pas dit qu'on ne fera pas de nouveau appel à vous dans le cadre de la consultation en cours sur l'avenir de la protection de l'autonomie du Québec. Alors, je vous remercie beaucoup et à bientôt peut-être.
Merci beaucoup. Au revoir.
À bientôt, Geneviève.
Au revoir, merci.
Écoutez la saison 2 de La vie agricole à Ma TV. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver Ma TV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boivin, fromagerie L'Ancêtre, fromagerie La Station, fromagerie Les Basques, laiterie Charlevoix et Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
Avec le M7 de Kubota, soyez bien équipés pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7 en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Venez participer aux Journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi, plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème « Boissons et vendanges ». Et le samedi 4 novembre, sous le thème « Fondue et fromage ». Une invitation de la SDC Limoilou et de la vie agricole. Avec le partenariat de Nature Bélisle, le spécialiste de la nutrition des poules en ville.
Et nous voilà de retour et c'était intéressant les propos de Mme Parent avant la pause. On parlait évidemment toujours de cette loi sur la protection du territoire agricole. Mme Parent en a sorti le positif, en tout cas du moins voit du positif dans cette loi-là et en réitère l'importance. Quelle est votre analyse? Maintenant, messieurs, je vous rappelle pour les auditeurs à la maison, on est avec Simon Bégin, Michel Saint-Pierre et Guy Dabayol, évidemment de l'Institut Jean Garon.
Ben oui, écoutez, c'est Simon qui parle. Moi, j'étais très heureux de recevoir Mme Parent. Une des choses que l'Université de Laval, dans sa vaste étude, a dit sur l'aspect juridique, là, on parle vraiment, c'est une chaire de recherche en droit, donc c'est pas des agronomes, là, c'est des avocats. Ils ont dit que c'était une des lois les mieux construites dans l'appareil législatif du Québec. Moi, si vous permettez, je pourrais revenir un petit peu dans le temps. Il y a 45 ans, quand j'étais au bureau de M. Garon et que moi, le jeune attaché politique qui connaissait pas grand-chose à tout ça, mais qui observait ce qui se passait autour de la table. J'ai pu voir à l'œuvre, j'ai qualifié de grand cerveau juridique. Je pense à Jules Brière, un brillant avocat. Pierre-Luc Blin, qui est devenu le premier président de la Commission de protection de code. Il y avait Maître Gagné, directeur du contentieux. Et M. Garon lui-même, les gens l'oublient souvent, c'est un avocat, professeur de droit à l'Université de Laval. Donc, il était à l'aise dans ces discussions-là, ces réflexions-là. Et comme Mme Parent l'a indiqué, on n'était pas dans n'importe quel droit. On était dans un droit qui touchait à ce qu'il y a peut-être de plus sensible, le droit de propriété. Dire à quelqu'un, c'est à toi la terre, mais tu peux pas faire ce que tu veux avec. Tu peux pas la vendre à qui tu veux. Tu peux pas la diviser, faire des maisons. C'est une limite très importante au droit de propriété. Et dans la genèse de la loi, c'était l'enjeu principal. Là. Guy, peut-être que je pense que vous arriviez au Québec à l'époque. Il y avait cette question-là de l'indemnisation des producteurs agricoles. Pour beaucoup de producteurs, Michel, à l'époque, les gens près des villes voyaient arriver le développement, voyaient arriver les bungalows. Et je disais, bon, ben un jour, ça va être mon tour, puis mon fonds de pension, c'est quand je vais vendre ma terre à un développeur. Alors là, on venait de dire à ces gens-là, non, c'est pas ça, votre fonds de pension, c'est faut que vous viviez de l'agriculture, puis tout ça. Alors, ce qu'il y a eu à un moment donné, l'UPA elle-même, à l'époque, réclamait cette indemnisation-là. Vous pouvez pas nous priver de notre fonds de pension. Et à un moment donné, à l'époque, le président de l'UPA, c'était Paul Couture. Moi, je dirais, c'est un vrai paysan, M. Couture. Ça paraissait qu'il avait les deux pieds bien ancrés dans la terre. Et il y a eu une rencontre entre Jean Garon et Paul Couture, où là, il y a eu comme un accord, une poignée de main, où Jean Garon a dit le gouvernement du Québec va limiter le droit de propriété, va protéger le territoire agricole, mais on ne vous laissera pas dans la misère. On ne vous laissera pas pris avec vos terres sans pouvoir vivre dignement. On va adopter des politiques, des programmes, on va mettre l'argent qu'il faut pour que l'agriculture se développe, puisse vivre dignement. Alors, il y a eu une poignée de main. Paul Couture a cru, a fait confiance et il a renoncé à l'indemnisation. Ce qui lui a valu, je pense, à M. Paul Couture, une volée de bois vert de la part des producteurs qui y tenaient. Il a fallu qu'il ait le courage lui-même d'aller vendre ça à sa base, que non, il faut faire confiance au gouvernement, ils vont avoir des politiques, ça va changer, et ce qui est arrivé. Alors je pense que, juste un petit rappel historique pour rappeler, je pense que l'importance de cette loi-là, et aussi le fait que ceux qui l'ont bâtie, ceux qui l'ont construite, ils savaient ce qu'ils faisaient.
Ben, je dirais, en réponse à l'intervention de... C'est même pas de réponse, mais ça, en réaction à l'intervention de Geneviève Parent, on ne peut pas être, nous, en désaccord, loin de là, parce que lorsqu'il y a 5 ans, lorsqu'on a célébré les 40 ans, on a produit d'abord une étude, un document et des consultations. Et je pense qu'on était au même endroit qu'elle. On saluait... D'une part, la pertinence de cette loi-là et ce qu'elle avait fait au cours des 40 années. Hein. Là, on est rendu à 45, mais je pense que tout ça était dans la même ligne. Malheureusement, on parle beaucoup plus souvent au niveau, puis c'est vrai à peu près dans tous les secteurs d'activité, de ce qui ne va pas que ce qui va. Hein. On parle beaucoup plus des quelques exclusions. Il y en a eu, bien sûr. Il y a eu des plus, il y a eu des moins. On a bien sûr graffiné un peu autour à la périphérie de cette zone agricole, surtout lorsqu'on était en zone périurbaine. Et ça, ça a fait beaucoup plus les manchettes. Tellement quelqu'un qui aurait eu juste les manchettes, qui n'aurait pas regardé l'ensemble de l'œuvre, aurait pensé que toute cette affaire-là est tout croche. Mais c'est pas tout croche, loin de là. Loin de là, c'est une loi qui a fait un travail formidable pour protéger et éventuellement mettre en valeur au moins la zone agricole la plus riche, au moins celle-là. Et... bon, on n'est pas satisfait, nous, de ce qu'on produit, mais on peut quand même, on est capable de dire que la protection du territoire a été bien faite.
Oui, il faudrait s'imaginer ce que ce serait aujourd'hui, 45 hectares, si elle n'avait pas existé, la loi. Là, je pense que le paysage agricole ne serait pas le même. On peut déplorer la façon dont il est utilisé, puis on y reviendra, mais au moins, il est encore
en caricaturant à peine, Simon, on pourrait dire que s'il n'y avait pas eu cette loi, ben on aurait occupé d'autres politiques agricoles parce qu'on aurait une agriculture qui serait complètement marginalisée des régions les plus qui étaient devenues les plus productives.
Oui. Il y a un point pour lequel je voulais souligner, c'est que l'UPA de 1976, c'est pas l'UPA d'aujourd'hui.
Oui, tu as raison, Michel. Oui.
C'était beaucoup plus une association qui était dans la suite de l'Union catholique des cultivateurs. Alors, elle avait une... Comment dire? C'était pas une...
C'était pas
une business syndicale.
C'était pas une business, oui,
c'était pas tant que ça. C'était véritablement un groupe, et dans le cas de Paul Couture, bon, il y avait une autorité morale qui était très, très forte. Et je pas certain, là c'est toujours difficile de faire, les Américains appellent ça un Monday Morning Quarterback, je ne sais pas si l'expression vous la connaissez, comme si on refaisait la partie le lendemain matin, mais est-ce que la situation serait la même aujourd'hui? Moi j'en doute beaucoup. Il y a le mode de négociation entre le gouvernement et l'UPA d'aujourd'hui aurait été certainement très différent.
Oui, c'est ça, Michel.
Je pense qu'effectivement, quand on évoquait l'indemnisation, les compensations, on serait beaucoup plus dans un mode de ce type-là. Et Michel, tu as raison de souligner qu'il fallait quand même malgré tout un stage au leader agricole de l'époque, parce que c'est bien évident que lorsque cette loi arrive, lorsque les décrets sont promulgués, ben on a des situations très différentes. Un agriculteur dont la terre se trouve au fond d'un rang, ça ne va pas changer grand-chose pour lui. Pour celui qui se trouve à proximité immédiate de Laval ou de Longueuil, eh bien, c'est il voit disparaître toute possibilité de sa terre au prix de la terre urbanisable. Donc, effectivement, ça crée des écarts phénoménaux. Et c'était un enjeu à la fois protection du territoire agricole, mais aussi de maintien de l'unité du monde agricole qu'il y avait autour de ça.
Oui, ça pouvait aussi heurter, bien sûr, parce que des fois, dans certains cas, c'était le voisin qui avait vendu, c'était le voisin qui avait fait que les dernières rues de Longueuil ou de Boucherville avaient été, comment dire, étaient sur l'ancienne ferme de son voisin.
Et puis, ça sera mon tour.
Et on arrêtait là. Alors, bien sûr qu'il y a peut-être des gens qui commençaient à voir dans cette loi-là un manque à gagner extrêmement important. Ouais.
Il y a une autre considération aussi. Il a fallu un certain courage politique. Bon, à l'époque, c'était un gouvernement assez neuf qui arrivait, là, le gouvernement de René Lévesque. Et il a fallu d'abord une entente ferme, très ferme, de M. Lévesque lui-même, qui y croyait. Hein. Il fallait que le premier ministre, en le faisant comme ça, soit dans le coup. Sinon, il n'y a pas un gouvernement qui va prendre un tel risque d'affronter, de modifier le droit de propriété. Il y avait des grands appuis aussi au sein du Conseil des ministres. Il y avait aussi de l'opposition. Alors, l'histoire des discussions autour de la table du Conseil des ministres à l'époque, pour savoir si on y allait, comment est-ce qu'on ferait ça. Les ministres, ils regardaient la carte. Est-ce que mon terrain, mon comté, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais perdre mes élections si je fais ça? Alors, il y a eu vraiment des discussions très fortes et ça a pris, comme je disais, un bon courage politique. L'appui de l'UPA, je l'ai mentionné, a été essentiel. Et ça a été de l'avant. Et la loi...
Mais Simon, il y a des acteurs ici ou un acteur qu'on oublie souvent dans la mise en place de c'est le monde municipal lui-même qui n'était pas aussi unifié contre la loi. Je me souviens mes premières enquêtes portaient justement sur la mise en place de cette loi dans des régions périphériques de la région de Montréal. Et puis je me souviens d'avoir rencontré des élus municipaux. Et il était temps que ça s'en vienne, cette loi-là, parce que on n'en pouvait plus d'être soumis à la pression des développeurs qui insistaient pour qu'on construise des nouvelles rues pour...
Monsieur Guy, vous avez tout à fait raison. Je me souviens de conversation. Monsieur Gaon, il a fait une tournée, moi, donnée à travers le Québec pour vendre sa loi. Et il y avait des maires qui, devant la commission, devant le disaient, ah, ben là, ça devrait être laissez-nous, les maires, décider, on est capable. Puis après, venez voir Monsieur Garon, puis disait, hey, Monsieur Garon, je suis tellement content, mais je peux pas le dire, parce que mon beau-frère, il est entrepreneur, et le conseil municipal, j'ai trois autres développeurs, puis si jamais je dis que je suis pour la loi, je vais me faire crucifier. Alors, mais allez-y, puis on s'apprête, on l'attend, cette loi-là, depuis longtemps. Alors, il y avait ça, effectivement, il y avait un monde municipal qui avait un discours officiel de contre toute mesure, mais par en dessous, il y avait des maires qui l'attendaient. Alors, c'est très vrai, ça.
Je pourrais vous ramener peut-être juste un peu avant l'adoption de cette loi-là. Parce qu'il y avait eu une réflexion qui était faite du gouvernement antérieur.
Oui, bien sûr. Oui.
Il ne faut pas l'oublier. Donc, juste avant, les libéraux qui avaient occupé le siège, c'était le gouvernement de Robert Bourassa, il y avait un ministre qui s'appelle Kevin Drummond.
Oui,
Kevin Drummond était, sans le qualifier d'électron libre, il n'était pas dans le courant dominant chez les libéraux. Et il avait, lui, fait faire un travail sur, mettons, préliminaire, sur la protection du territoire agricole. Il y avait une forme d'embryon, à tout le moins, de projet de loi dans son tiroir.
Ouais, ouais.
Et il a essayé, lui, de le faire passer. Et, bien sûr, il a reçu un refus complet, genre, mets ça dans le tiroir, puis ferme-la à clé. Alors, résultat, Kevin Drummond a quitté le parti. Il ne s'est pas, à l'élection suivante, celle de 76, il ne s'est pas présenté parce que, pour lui, cette rebuffade-là, faut dire que Kevin Drummond était un homme très riche.
Il y avait des principes aussi. Là.
Oui, mais il y avait des principes. Et je dirais qu'il a joint plutôt le mouvement souverainiste par la suite. Ouais.
Mais je sais que par la suite, après l'adoption de la loi, ce Drummond a pris publiquement il a salué la loi, il a salué Jean Garon, puis il a dit tout simplement qu'il aurait bien aimé être celui qui l'aurait fait passer, mais c'était pas le cas.
C'était pas le cas, effectivement. Mais ça, on l'oublie parce qu'il y avait quand même eu cette réflexion-là. Mais la clientèle, je dirais, clientèle où le membership libéral était très différent de celui du Parti québécois. Mmh. C'est un membership beaucoup plus près des affaires, du développement, de la construction et bon, de tout ce qu'il pouvait dire, agrandissons la ville puis occupons le territoire.
Ouais. Écoutez, messieurs, chers collègues, c'était très agréable de revenir sur ces souvenirs-là. Dans le fond, le but, c'était de montrer l'importance de la loi, de rappeler comment elle avait été adoptée dans des circonstances très particulières. Et je ne sais pas si ça vous le dirait, mais on aurait pu aller plus loin que Mme Parent. Je me demande si on ne la réinvitera pas. Entre autres, je suis sûr que dans la tournée qu'elle a faite de la planète pour voir comment les autres pays, les autres provinces protègent leur territoire agricole, il y aurait peut-être des idées dont on pourrait s'inspirer dans le cadre de la révision en cours de la loi de protection. Alors, c'est peut-être un prochain rendez-vous pour revenir avec la boîte d'outils qu'on pourrait utiliser pour améliorer la loi. Alors, merci à vous deux. C'était très intéressant. Merci, Michel.
Merci, Simon.
Excellent.
Guy, merci, Michel.
Merci, passez.
Merci.